Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, une émission de cinéma hebdomadaire sur Divergence FM. Alors habituellement, eh bien, dans la nouvelle grille, c'est de 13h30 à 14h30 avec une rediff de 18h à 19h. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, ce sera après 14h30 pour le direct. Et en rediff, par contre, ça reste 18h-19h. Nous sommes trois dans ce studio. Et nous allons eh bien développer le sommaire. Moi, je parlerai eh bien de l'affaire Farwell avec toi, Martin, puisque on l'a vu ensemble hier. Et puis, je parlerai aussi, je l'avais déjà évoqué la semaine dernière, je suis heureux que ma mère soit vivante, de Claude et Nathan Miller, le père et le fils, avec eh bien aussi des petits extraits d'une interview qu'ils ont accordée la semaine dernière. Quant à toi, Boris.
Oui, donc effectivement, cette semaine, eh bien, on est sous le signe du tandem, du duo, hein, puisque moi, je suis allé voir rien de personnel que Martin a vu aussi.
J'ai vu aussi, d'ailleurs.
Et tu as vu aussi, le trio, c'est magnifique. Et puis également Hotel Woodstock. Alors là, par contre, je crois être le seul à être allé voir ce film. Par contre, je pense que je pourrais peut-être éventuellement rebondir un peu sur Des Mineurs et donc ta chronique, Martin.
Oui, parce que moi, je vais vous parler un peu du dernier film de Catherine Bigelow, donc Des Mineurs. Et j'en profiterai aussi de cette émission pour vous parler un petit peu des sorties de la semaine par le biais des a priori de la semaine.
Le retour des a priori, ça c'est
ça fait plaisir.
C'est toujours quelque chose.
Alors Des Mineurs.
Donc très bien, c'est parti. Alors bon, comme chacun le sait, la guerre en Irak, aussi appelée deuxième guerre du Golfe, s'est terminée officiellement le 1er mai 2003, avec le discours prononcé par George W. Bush sur le pont du porte-avions USS Abraham Lincoln. Alors bien sûr, depuis, l'ancien président des États-Unis s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait commise ce jour-là et a fait son mea culpa public avec son célèbre discours « Je m'ai trompé ». Voilà, et bien lui en a pris, puisque depuis 2003, la guerre d'invasion américaine en Irak a simplement laissé la place à une guérilla tout aussi meurtrière. Le nombre de victimes d'attentats depuis 2003 se chiffre en dizaines de milliers et de nombreux soldats américains sont encore sur place, bien que le retrait des troupes ait été amorcé depuis quelques mois. Alors comme Cinérama n'est pas encore une émission d'analyse géopolitique et que nous sommes censés parler un peu de Cinoche, je vais en rester là pour ce qui est du cours d'histoire contemporaine pour m'intéresser donc au dernier film de Catherine Bigelow. Alors cette réalisatrice est assez peu connue outre-Atlantique, même si certains de ses films, eux, ont fait le tour du monde, dont le mythique Point Break, qui nous plonge dans le monde merveilleux des surfeurs, surfeurs menés par le sexy mais décédé Patrick Swayze. Voilà, donc un autre de ces films que certains ont dû voir, c'est Strange Days, sorti en 96, avec Ralph Fiennes, Juliette Lewis et Angela Bassett. Alors dans ce film, Catherine Bigelow nous emmène faire la fête au jour de l'an 2000 et nous présente un monde cyberpunk dans lequel une nouvelle technologie permet d'enregistrer les sensations humaines sur mini-disques. Alors oui, en 96, c'était le top du top niveau support numérique, le mini-disque. Et bon, voilà, on peut enregistrer donc les sensations humaines et les revivre à volonté. Mais bon, depuis 2002 et son film K-19, Le piège des profondeurs, la réalisatrice n'avait pas tourné de nouvelle œuvre. C'est chose faite aujourd'hui avec The Earth Locker, retitré en français Des Mineurs. Donc ce film nous raconte le quotidien d'une équipe de soldats américains en Irak, chargés de déminer toutes sortes de bombes artisanales, voitures piégées et autres joyeusetés issues de l'esprit tordu des terroristes. Et après un attentat qui tourne mal au début du film, un nouveau vétéran du déminage est affecté à cette unité. Donc le problème, c'est que le nouveau venu semble ne pas avoir conscience des risques qu'il prend et que ses méthodes, pas vraiment orthodoxes, ne sont que la face visible de son addiction à l'adrénaline. Donc il ne parvient... Il ne parvient visiblement à s'épanouir qu'à l'intérieur de ce Hurt Locker, donc du titre américain, cette zone létale à l'intérieur de laquelle le démineur ne survivra pas si une explosion se produit. Donc après Brian De Palma et son Redacted, après Nick Broomfield et son Battle for Adita, après Paul Haggis et son Dans la vallée des là, et après Ridley Scott et ses Mensonges d'État, eh bien Catherine Bigelow vient grossir les rangs des cinéastes américains qui ont porté un regard sur le conflit irakien et sur ses répercussions. Mais bon, là où Des mineurs s'avère assez original, c'est dans son choix de traiter ce sujet de façon frontale, en nous plongeant dans le quotidien de la guerre sans s'attarder sur la grande histoire. Donc le cadre aurait pu être différent, une première guerre d'Irak, guerre du Vietnam ou seconde guerre mondiale. Le propos de la réalisatrice n'est pas politique, mais anthropologique. Elle place d'ailleurs en exergue de son film le véritable message qu'elle veut véhiculer, donc à savoir la guerre est une drogue. Et en effet, Des mineurs dépasse un peu le film humaniste classique antimilitariste pour nous présenter une intrigue et de véritables personnages de cinéma. Donc le sergent William James, personnage principal du film, est une sorte de cousin du sergent Riggs de L'Arme fatale, donc une tête brûlée, presque suicidaire, malgré sa grande compétence. Et bon, ce personnage va nous servir de guide dans notre découverte de son univers où la peur règne en maîtresse. Alors la mise en scène joue la carte de l'immersion des spectateurs au cœur de l'action. Elle recourt à la caméra portée, à la vue subjective, à un montage qui colle au regard des personnages. Mais le point fort du film, c'est son utilisation inspirée du suspense, de cette tension judicieusement distillée tout au long du film. Après donc cette séquence d'introduction qui nous montre ce qui peut arriver de pire si la situation dérape, eh bien chaque nouvelle scène de déminage vient nous cueillir et nous crispe sur nos fauteuils dans l'attente du toujours pire. Et c'est avec ce traitement de l'histoire, selon les codes du thriller, que Catherine Bigelow parvient à donner à son film une identité assez originale. Alors que la plupart de ses compatriotes réalisateurs s'ingénient à rendre la guerre toujours plus hideuse et à jouer sur la répulsion face à l'horreur, eh bien Catherine Bigelow prend le contre-pied de cette position et sublime la guerre et les hommes qui la font. Donc elle donne aux actes de ses personnages une aura résolument fun, iconique, et joue sur l'excitation presque sexuelle qui étreint le sergent lorsqu'il est confronté au danger de mort. Donc habituée à explorer les recoins sombres de la psychologie masculine, Catherine Bigelow arrive à faire affleurer la fragilité de ces hommes qui jouent avec la mort comme d'autres jouent à des jeux vidéo guerriers. Donc un autre choix inspiré fait par la réalisatrice, c'est d'avoir confié justement les rôles principaux à des acteurs relativement inconnus du grand public, alors que son casting comprend des stars hollywoodiennes comme Ralph Fiennes, comme Guy Pearce ou David Morse. Eh bien c'est Jeremy Renner qui campe le personnage principal. Et bon, si certains reconnaîtront le soldat du film 28 semaines plus tard, son anonymat permettra à la plupart des spectateurs une identification et une adhésion à l'histoire plus poussée que si nous avions eu en face de nous une tête connue genre Bruce Willis et consorts. Alors bien sûr, le film n'est pas exempt de petits défauts, comme son manichéisme assez appuyé qui en gênera sans doute certains, ainsi que certaines scènes redondantes et certains dialogues assez foireux. Mais bon, dans l'ensemble, Des mineurs reste un film qui aborde avec finesse les dégâts psychologiques que subissent les hommes qui sont plongés dans la guerre. Et bon, malgré ce sujet qui aurait rapidement pu faire sombrer le film dans le pensum humaniste, eh bien, la réalisatrice parvient à créer également un film distrayant, un film d'action qui est surprenant à bien des égards. Donc, pas un chef-d'œuvre, mais bon, une belle petite bombe quand même.
Bah ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'elle a fait vraiment un travail assez original par rapport à tout ce que tu as pu dire. Effectivement, moi le point qui m'a le plus intéressé, c'est le traitement qu'elle a fait sur le temps et la manière dont le temps passe en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes qui vont être filmées en temps réel. Et ça joue effectivement énormément pour l'aspect suspense du film. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de scènes qui sont aussi destinées à retranscrire justement un quotidien relativement dépourvu d'activité, où les soldats vont se retrouver simplement confrontés à cette chaleur accablante. Il y a cette scène donc, dans le désert où ils sont postés là, suite à une interception de snipers isolés. Et voilà, donc là, on sent vraiment la chaleur écrasante du soleil irakien, avec la poussière du désert et ce genre de choses. Donc il y a vraiment une retranscription de ce que peuvent vivre ces hommes, même en dehors donc, des séquences vraiment violentes et haletantes. Ça, c'était très intéressant. Après, moi, le point faible, tu l'as évoqué, que je trouve un peu à ce film, c'est qu'effectivement, il est assez manichéen. Il a beau être anthropologique, finalement, il n'y a qu'une communauté qui est étudié. Et ça, voilà, c'est ce qui m'a... Bon, c'est pas très dérangeant, c'est pas très grave, mais voilà. J'avais préféré, par exemple, donc Battle for Adita, effectivement, où là, il y avait un point de vue un peu plus... enfin moins unilatérale quoi. C'est voilà, il y avait le point de vue des Irakiens, des civils, des agents en fait, des terroristes quoi en gros, qui sont en fait simplement des rebelles. Hein, c'est même pas des terroristes. Enfin, ils sont terroristes par obligation si on veut. Mais et puis donc bien sûr, le point de vue des Américains. Et donc ça j'avais bien aimé dans Battle for Adita. Voilà. Donc mais sinon c'est vrai que ça reste un très bon divertissement. Ouais. Ça m'a bien plu aussi.
Mais c'est vrai que oui, ça c'est plus un film de fiction pour ça, où on suit justement le point de vue des personnages. Ce que je voulais dire, un peu la caméra, elle colle vraiment au regard des personnages. On voit ce que les personnages regardent, c'est-à-dire qu'elle va suivre, elle va devenir excitée dès qu'il y a une scène où il faut surveiller chaque recoin, voir s'il n'y a pas quelqu'un avec un téléphone portable prêt à faire sauter la bombe. Et là, c'est la caméra qui regarde, qui guette, qui surveille. Et c'est vrai qu'on est plongé vraiment avec ces personnages-là en particulier. C'est aussi un film anecdotique d'une certaine façon, parce que voilà, c'est de la fiction. Comme je disais, ça pourrait être n'importe quelle guerre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ce contrepoint du regard extérieur sur les Américains. Ouais. Mais bon, moi, ça, c'est pas vraiment ce qui m'a dérangé le plus. Non, ce qui m'a dérangé le plus, c'est quelques scènes, voilà, ou quelques dialogues. Comme voilà, au bout d'une heure et demie de film, deux personnages qui prennent 10 minutes pour se dire mais est-ce que tu réalises qu'on pourrait mourir à chaque instant? Voilà, bon, c'est des petites maladresses à mon avis, mais sinon oui, en effet, ça reste un film recommandable.
Bon. Voilà, et c'est projeté donc Gaumont, CGR.
Voilà, et ouais. C'est projeté en version originale au Royal, si je ne me trompe pas.
Attends, décidément, c'est génial. Hein. Partout maintenant, on peut voilà. Regarder des films en VO.
District 9 en VO la semaine dernière.
Aux comédies.
Voilà, Des Mineurs Royal. Cette semaine.
Mmh. Alors, on passe à un tout autre. Un tout autre atmosphère.
Voilà, hein, tout mais... à fait. Mmh. Avec Rien de Personnel, donc un film français, donc, eh bien en français. Alors, Rien de Personnel, eh bien, c'est le premier film de Mathias Gokalp. Et bien que son expérience cinématographique compte déjà plusieurs courts-métrages, comme Le Droit Chemin, qu'il présenta à Cannes en 2004, avec Rien de Personnel, Mathias Gokalp commence donc sa carrière cinématographique sur long-métrage. Alors, comme l'annonce son titre, Rien de Personnel touche au monde de l'entreprise, au rapport de force en fait existant entre salariat et patronat, à la juxtaposition de la survie au jour le jour et de la machination juteuse d'origine patronale planifiée longtemps à l'avance. Alors, si on vous fait vivre un train d'enfer aliénant pour vous permettre de remplir votre caddie chaque fin de semaine, n'y voyez rien de personnel, pas plus que votre éjection après X années de bons et loyaux services rendus à la boîte. Et oui, mes bien chers amis, c'est donc la faute de la conjoncture, trop de monde, pas de cette place. Bon bref, donc Rien de Personnel débute avec l'organisation par la société pharmaceutique Müller d'une réception à laquelle sont conviés les employés à l'occasion du lancement d'un nouveau produit. La soirée prend rapidement une tournure particulière quand on découvre que les cadres sont en fait soumis à une séance de coaching sous l'œil critique d'évaluateurs en costume rouge sang. Alors, le spectateur sera introduit dans cette soirée par l'intermédiaire de Bruno Kouff, quinquagénaire pâteau et blasé qui peint à tenir la barre dans sa vie et qui se sent un petit peu étriqué dans son costume de soirée. Donc la mise en scène et le jeu de Daroussin le dessinent pathétique, pauvre bougre qui lutte contre une hiérarchie que l'on ressent écrasante. On va ainsi pénétrer dans cette soirée par le biais de l'identification à cet individu qui va fatalement orienter notre perception. Les patrons apparaîtront comme d'horribles salauds, pédants et embourgeoisés, les cadres plus jeunes que Bruno comme de véritables vampires, arrivistes et calculateurs. On arrivera à plaindre la naïveté doublée du poids des années et s'insurger en silence contre ce monde dégueulasse de l'entreprise et par extension de la société. Et puis, lorsque tourne la page de ce premier chapitre rapidement esquissé, on redécouvre en fait la même histoire, mais vue sous un angle différent. En l'occurrence, celui de Gilles Bergerat, délégué syndical interprété avec panache par Denis Podalydès, et puis plus tard par celui de Natacha Gauthier-Stevens, campée par Mélanie Douté, jeune cadre dynamique et ambitieuse. Et là, badadadraf, c'est la première lecture qui s'effondre, les renseignements apportés par ces nouveaux plans donnant un sens nouveau à l'image. Apparaît alors toute la malice et le génie du réalisateur qui se plaît à jouer avec la perception du spectateur, le signifier des icônes tandis que s'enrichit l'histoire au fur et à mesure de son avancée. Donc Rien de Personnel apparaît donc comme un spectacle total, au rebondissement multiple, et face auquel il est impossible de s'ennuyer. Pour ma part, je ne vous parlerai pas plus du développement du propos, dans le sens où
Il y a effectivement un découpage en trois actes qui reprend un peu donc des fractions de scènes identiques et qui, par justement mais l'angle du réalisateur, va donner en fait un sens à son propos. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus. C'est vraiment un film qu'il faut aller voir pour découvrir par soi-même, dans le sens où c'est vraiment une espèce d'échange, de discours adressé directement au spectateur et auquel va prendre beaucoup de plaisir, visiblement, et vu la réussite du procédé, le réalisateur. Alors Tom Martin, je ne sais pas ce que tu en as pensé de ce film.
Oui, j'ai trouvé que c'était un petit film qui se laissait bien regarder, qui était sympathique. En effet, il y a cette construction sous forme de poupée russe où à chaque nouveau chapitre, par adjonction d'éléments, le réalisateur va modifier le sens de son histoire. C'est une sorte de jeu avec le mensonge par omission pour le spectateur. Et ça, ce choix de manipuler justement le spectateur, ça donne aussi un vrai discours. Alors, au-delà du discours sur le monde salarial, patronal, le discours qu'on peut retrouver dans un peu tous les films français, il y a ce discours sur l'image et sur la force qu'on peut donner à l'image grâce au montage, à la manipulation. Sinon, oui, j'ai trouvé que les comédiens assuraient assez bien.
Ce qui te pose problème en même temps, l'identification à un Darroussin, par exemple, oui, difficile.
Mais en même temps, j'ai trouvé qu'ils arrivaient quand même à faire plus ou moins oublier. Bon, c'est peut-être parce que je vois pas énormément de films avec Darroussin et avec Podalydès, mais ils passent assez rapidement. Enfin, on oublie assez rapidement que c'est la gueule de Darroussin, la gueule de Podalydès. Il faut dire Podalydès, sociétaire de la comédie française, d'ailleurs. Et donc, oui, non, il y a dans les points forts, il y a ce scénario qui arrive à mettre un peu en abîme aussi la forme elle-même. Donc, il y a ce jeu sur le coaching d'entreprise où on fait semblant et on ne va pas tout dire. Et donc, ça met un petit peu en abîme la forme où, justement, on ne va pas tout dire et c'est une sorte de comédie. Mais bon, sinon, le film manque, à mon avis, d'ambition. C'est assez vain, finalement, tout ce qu'il met en place. On peut se demander à la fin de la projection pourquoi. Oui, très bien, joli exercice de style, mais quel est le but ? Voilà, parce que on peut jouer comme ça avec les spectateurs. Si c'est juste un cours de cinéma, très bien. Mais à ce moment-là, peut-être donner un peu plus de folie à ce scénario, parce que là, on reste dans des préoccupations très cinéma français, avec justement le boulot, le mariage, etc.
Ouais. Mais bon, ceci dit, c'est vrai que c'est quand même, sont amenés à un certain nombre de points. Bon, ouais, c'est ceux peut-être que toi tu condamnes, mais moi je trouve que c'est quand même relativement intéressant d'amener des espèces de réflexions sur le monde de l'entreprise par le biais de ce procédé qui du coup prend quand même une certaine distance, enfin fait prendre de la distance. En fait, c'est cette distance du coup qui est très intéressante, avec laquelle va jouer le réalisateur. Tour à tour, on va plus du coup se focaliser sur sa propre compréhension de ce qui se passe et de ses faux semblants, et puis tour à tour donc forcément sur le fond. Sur les rapports vraiment difficiles qu'il peut y avoir donc entre patronat et salariat, et là où justement ces pressions peuvent mener certains individus, quoi, c'est-à-dire à l'isolement, ce genre de choses, puisque dans un premier temps c'est ce qu'on pense en voyant par exemple le jeu de Darroussin, quoi.
Donc, en tout cas, oui, on sent le premier film avec cette petite leçon de cinéma où effectivement il est question de quel personnage Darroussin pose cette question. Lui, les premières scènes qu'on voit, c'est j'ai un costume et je vais jouer quelque chose dans cette soirée de coaching, quoi. Enfin, ouais. C'est vraiment ça. Et après, les différents points de vue, me semble-t-il, sont bien mieux mis en scène par Gus Van Sant, qui lui ajoute encore une autre touche, Parce que moi, à un moment, ça m'a un peu agacé, cette forme de reprendre une scène et puis justement d'ajouter un élément en plus. On se dit ah oui c'est vrai, je me suis fait avoir tout à l'heure, je pensais ça, mais en fait il va se passer totalement autre chose dans cette séquence, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu dérangeant ou facile, en fait c'est le mensonge, du mensonge par omission. On va simplement pas donner un élément au spectateur et le lancer sur une fausse piste et puis utiliser un twist et lui dire non, tu t'étais trompé. Alors que bon, il y a d'autres films qui jouent comme ça sur le twist et qui sont un peu plus malins parce que justement ils n'omettent pas, ou alors ils font en sorte justement de pas mentir par omission au spectateur. Je pense à Usual Suspect, par exemple, qui, bon, c'est une sorte d'énorme mensonge en soi.
C'est la manipulation, mais, elle est
mais
absolue,
justement,
là.
C'est pas sur des petits éléments, ou comme mais... les Neuf Reines, par exemple, qui utilisent un peu ce qui est un film d'arnaque, où il y a un twist aussi à la fin, et qui joue justement sur de l'omission. On va pas montrer certaines images aux spectateurs qui auraient pu lui faire comprendre. Là, c'est exactement pareil. On ne montre pas certaines images aux spectateurs qui on coupe trop tôt ou voilà, et le plan d'après, on coupe un peu plus tard. Et là, le sens se dégage.
Mais voilà. Là, l'exemple que tu prends du Usual Suspect, à mon avis, c'est un très bon exemple, parce que pour moi, c'est le film qui montre le mieux la manipulation au cinéma.
Sans jouer en même temps sur la forme, ouais, sans jouer avec les spectateurs. C'est ça. Ouais. Ça joue avec les personnages plus. C'est un jeu interne à l'histoire. Et c'est vrai que le spectateur est manipulé, mais je sais pas, peut-être à plus à bon escient, ou je sais pas trop comment dire.
Bah en tout cas, il est diverti, ça c'est sûr, et il s'est bien fait avoir à la fin du film.
Que là, le seul problème, c'est que je trouve la vanité un peu de cet exercice de style. Voilà.
Alors après, moi, c'est sur le fond. Alors effectivement, ça parle de l'entreprise, alors y a les salariés, il y a le patron qui est là, qui fait un chant, ça c'est très...
Moi, Pascal Grégory très... d'ailleurs, qui est assez
Pascal
énorme.
Pascal Grégory, mais, ouais. qui joue très bien, mais ouais, bon, j'ai trouvé son chant très très ennuyé. Et donc il y a le rapport personnel de l'entreprise et puis patron, il y a le rapport vie privée, vie publique aussi, enfin qui intervient, mais dans ce style-là, moi j'avoue que j'ai préféré Violence des échanges en milieu tempéré, de Jean-Marc Moutou, qui était sorti il y a bien maintenant 3 ans. Qui montrait là une jeune personne qui sort de l'école et qui doit absolument purifier une entreprise, parce que là il s'agit de la même chose, hein, c'est du rachat, enfin voilà tout ce qu'on entend dans l'actualité en ce moment, enfin hein, avec cette crise quoi.
Ouais.
Voilà, bon après c'est sur le fond, je trouve qu'il y avait, enfin je trouve Violence des échanges en milieu tempéré beaucoup plus percutant, donc je préférais que nos chers auditeurs se procurent le DVD plutôt que d'aller voir Rien de personnel, qui cela dit est quand même un...
Oui, c'est un premier film en plus.
Un bon film, un premier film. Enfin voilà,
où
il a tout mis quoi. Enfin, il a tout mis. En tout cas, il a mis ce qu'il a sans doute appris dans une école de cinéma ou à force de regarder des films. Effectivement, on sent qu'il a bien digéré quelque chose et qu'il le met en scène quoi.
Mais c'est vrai qu'avec une forme aussi travaillée, on aurait pu attendre un scénario, un fond, une histoire peut-être un peu plus folle, un peu plus. Ouais, je sais pas.
C'est limite déprimant de toute façon. Enfin, c'est quand même. On peut le dire, c'est limite déprimant. Enfin,
il y a quelque chose de très pessimiste.
Il neige, enfin voilà. Bon, après, il y a des petits pieds de nez avec un personnage qui va complètement évoluer, qui va bien évoluer entre son statut social de départ au début du film et puis à la fin du film. Ça, c'est ça. Par contre, j'ai trouvé ça assez bien
fait. Oui, il y a ce petit côté moraliste aussi qui est... Non, c'est un film qui finit bien, voilà, vous sortez, ça finit bien, ça finit assez bien par rapport à ce qu'on pourrait attendre, mais oui, voilà, c'est un petit film d'après-midi.
Allez,
pluvieuse, bon,
voilà, okay. Vraiment vous doutez, est-ce que j'y vais, allez-y quand même, voilà. Ça, c'est projeté au Diagonale, et puis du côté de Agde aussi, si vous êtes là-bas. On passe à tout autre chose, c'est un film qui s'appelle L'affaire Farwell de Christian Carion qui avait fait Joyeux Noël. Donc Joyeux Noël, c'était le film qui se passait bien dans les tranchées.
Qui racontait la trêve de Noël.
Voilà, la trêve de Noël 1914, entre les Allemands et les Français. Et bien là, il revient sur une autre opposition. Il parle d'une affaire de la guerre froide, l'affaire Farwell. Farwell étant le nom de code d'une taupe russe, un lieutenant-colonel du KGB, rien de moins quand même, qui s'appelait Vetrov. Et donc qui, au bout d'un moment, s'est mis à parler, à vouloir donner des renseignements à l'Ouest. Et précisément aux Français, parce qu'il avait fait un voyage en France avec sa femme, c'était dans les années 60, il était resté 5 jours en France, et il tombait amoureux complètement de la France. Et finalement, ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il donne ces éléments aux Français, notamment un cadre de chez Thomson, mais de manière complètement désintéressée, ou plus exactement, ce qu'il voit, lui, dans toutes les informations qu'il va donner, on parlera de ces petites informations, c'est que c'est pour faire changer le monde. Alors on se dit, bah, il est complètement fou, il est mégalo, est-ce que vraiment il a ce pouvoir-là de faire changer les choses? En tout cas, on écoute ses motivations, il est en discussion donc avec ce cadre de Thomson.
C'est un bon rêve, le communisme.
Non, ça, c'est sûr que ça respire le bonheur dans vos rues. Les gens sont transportés par la joie.
C'est difficile à réaliser un tel rêve. Vous savez dans quel état était la Russie en 17? Le Moyen-Âge. Et 40 ans après, on a été le premier à envoyer un homme dans l'espace. Le premier. Aujourd'hui, le régime est totalement bloqué. Il faut faire exploser le système. C'est pour ça que je vous donne toutes les informations. Quand le bloc soviétique ne pourra plus vous piller, tout tombera et ce sera une nouvelle révolution. Je ne le verrai pas, mais Igor, mon fils, le vivra, lui. Ce sera ça, ma récompense.
Voilà, donc, qu'est-ce qu'on entend ici ? Eh bien, deux personnages qui vont être les personnages centraux du film, hein, donc la taupe et puis le cadre de Thompson, qui est joué par Guillaume Canet, et le Vetrov, notre russe, est joué par Emir Kusturica. Donc désintéressement complet. S'il le fait, c'est pas forcément parce qu'il n'aime pas l'idéal communiste, c'est simplement que le communisme a tellement changé, et bien que voilà, enfin, il a envie de faire tout imploser. Donc ça, c'est un élément. Alors c'est un film qui est vraiment anti-James Bond, parce que si ça part sur des bases d'espionnage, il est évident que eh bien, on ne verra absolument pas de coup de feu. On ne verra pas de cascades en tout genre et bon, il y aura quelques adultères, enfin un adultère, mais bon, c'est bien tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Enfin voilà, donc complet anti-James Bond. Il faut dire que c'est un film français. Alors est-ce que ça, et que c'est pas produit par Besson, est-ce que c'est ça la réponse? Je sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas, enfin je sais pas ce que t'en penses, Martin, mais il y a pas vraiment de vision documentaire. C'est-à-dire qu'on voit la vie des Russes à cette époque, d'ailleurs, qui n'est pas forcément une vie si triste et morne. Enfin, je veux dire, il y a un minimum de vie enfin, dans les rues. On sent pas forcément l'oppression.
Oui, ouais, bah c'est moins un film documentaire, oui, comme tu dis, qu'un biopic, en fait. On est plus du côté portrait de ces personnages et... Donc avec le lot de petites scènes anecdotiques qui va les faire vivre à l'écran, c'est vraiment plus un portrait qu'un retour précis sur cette période. Ben, moi, ça m'a fait penser à l'Armée du crime, en fait, de Guédig, où on est aussi dans quelque chose de... voilà, une sorte de reconstitution, mais pour la fiction, presque. C'est pas volontairement didactique sur cette période. C'était très compliqué en même temps, donc je sais pas si on aurait pu faire un film... tout public, distrayant sur ce sujet. Voilà.
Alors oui, bon, voilà, on suit les personnages donc avec dans leur famille, avec leur femme et ainsi de suite. Donc ça, c'est une part importante du film. Et puis, il y a un éclairage après historique avec des personnages comme François Mitterrand, qui est incarné à l'écran de manière plutôt bien... Enfin voilà, il est bien campé, je trouve. Et puis Ronald Reagan. Voilà. Donc on voit bien, par contre, ce qui se jouait derrière cette affaire énorme, puisque Farwell, donc Vetrov, va livrer tout un tas d'informations, tout ce que finalement les Russes ont réussi à piller pendant une quinzaine d'années. Donc c'est pas rien. Et ça va permettre à la France, d'expliquer que même si c'est un gouvernement socialiste avec des ministres communistes, eh ben la France va pas passer du côté de l'Est, voilà. Donc ça va être effectivement, ça va avoir des enjeux, avoir des enjeux géopolitiques. Et ça, c'est bien interprété par, je pense, Guillaume Canet, qui se rend compte que voilà, il a envie d'abandonner et de se dire mais je suis pas espion, je veux pas faire ça. Et finalement, il se dit mais finalement ça sert des intérêts qui sont bien plus élevés que mes pauvres petits intérêts et mes petits problèmes familiaux, quoi.
Oui.
Voilà.
Parce que l'affaire Farwell, en fait, ça a permis de réaffirmer l'engagement de la France aux côtés des États-Unis, alors que justement, en fait, ce qui n'est pas montré dans le film, mais c'est que ça tombait pile pendant la présidentielle qui opposait Giscard et Mitterrand. Et que bon, le patron de la DST a eu ces informations avant de savoir quel président serait le prochain président de la France. Et vu que c'est un socialiste qui est passé, comme tu disais. Ça a été utilisé, en fait, pour... c'est un petit peu montré dans le film, quand même, parce que, Reagan se dit... on dit à Reagan qu'il va y avoir des ministres communistes en France, il est un peu atterré. Et bon, c'est utilisé pour renouer des liens entre France et États-Unis.
Voilà. Et on verra après hein, comment les services secrets collaborent. Alors ça, je pense que c'est plutôt vrai et juste ce qui s'est passé entre les services secrets français et puis américains, et puis la rencontre des deux chefs d'État, parce qu'ils se rencontrent quand même à deux reprises. Après, tout n'est pas vrai dans ce film. Il y a beaucoup d'interprétations parce que on ne sait pas si Vetrov finalement était aussi désintéressé. Les Russes disent qu'il était alcoolique, qu'il battait sa femme. D'ailleurs, dans l'histoire, la véridique celle-ci, enfin, ça s'est pas passé du tout comme ça, ni son arrestation. Enfin voilà, il y a plein de choses qui changent. Donc simplement, le réalisateur donne une interprétation et bah voilà, ça c'est plus un, c'est plus un roman, enfin autour de cet homme.
C'est un peu dommage d'ailleurs.
Oui, à mon
mais
avis,
tout n'est pas clair en même temps dans cette histoire, donc voilà.
Tout n'est pas clair, mais c'est vrai que ben, le réalisateur a choisi de couper certaines choses de la vraie histoire, ou au moins de ce qu'on en sait. Tu parlais de l'arrestation de Vetrov justement à la fin de cette affaire. Vetrov, c'était clairement. On va prendre des pincettes pour parler de ça, mais a priori, c'était quelqu'un qui était plutôt porté sur la vodka, qui était assez violent, qui a essayé d'assassiner
sa maîtresse.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été arrêté à la fin. Et donc, c'est un personnage qui est quand même beaucoup plus...
Pas aussi limpide que ce qu'on voit.
Voilà, pas aussi limpide que, au moins, ce que Kusturica en fait
dans
le film. Et bon, à mon avis, c'est un des points faibles du film, c'est d'avoir voulu absolument garder une sorte d'objectivité sur toute cette histoire, délaisser certains côtés anecdotiques, mais en gardant des choses qui sont classiques dans le cinéma, à savoir les relations mari-femme, père-fils... le plonger dans des souvenirs où le personnage regarde des petits films Super 8 et la nostalgie mise en scène. Et par contre, il y a un personnage qui aurait pu être complètement farfelu, qui aurait pu être beaucoup plus haut en couleur que ce qu'il n'est dans le film. Ça, c'est un peu dommage.
Et que voulais-je ajouter? Sinon, c'était à peu près tout, je crois. Enfin, hein, Farwell.
Oui, non, bah le pour moi, le film est un peu trop long. On s'attarde donc dans ces scènes où on va essayer de faire vivre ces personnages de fiction parce que finalement, ce qu'on a conservé de la vraie histoire ne suffit pas à remplir l'ensemble. Il y a ce manque de folie dans le traitement des personnages qui sont quand même, voilà, le cadre de Thompson qui décide du jour au lendemain de s'improviser agent secret, ce sergent du KGB qui décide du jour au lendemain de tout plaquer et de commettre un acte de trahison qui met sa vie en danger. Là, ça paraît un peu coulé de source dans le film.
Ouais.
Après, moi, j'ai trouvé les comédiens très bons.
Oui. Mais on prend l'histoire à un moment où, voilà, il a pris sa décision, Vetrov. Hein.
C'est vrai.
Ça, hein.
Mais justement, après, il aurait pu transparaître que c'était une décision un peu de folie, un peu... Enfin bon, c'est un choix politique ou idéologique, ce qu'on veut, mais bon, c'est quand même dans le cadre de l'URSS à cette époque-là, c'était pas vraiment facile peut-être, et c'est peut-être pas raisonnable même de faire ces choix-là, quoi.
Alors on peut préciser aussi hein, que ce personnage de Vetrov n'aurait pas dû être interprété par Kusturica mais par Mikhalkov, donc un grand réalisateur russe, mais qu'il y a eu tout un tas de soucis justement avec le pouvoir russe parce que eux ils sont pas du tout d'accord avec la vision qu'en avait le réalisateur donc de ce traître, parce que pour les Russes ça reste un traître.
Un assassin, voilà. Il a été arrêté pour tentative de meurtre et oui, il y a cette anecdote.
Et ça, oui, ça les fait sursauter les Russes.
Oui,
ça se comprend.
Ils ne supportent pas.
Mais donc oui, le film a pas été tourné en Russie.
Il a été tourné
en Ukraine. Mikhalkov s'est désengagé. Ensuite, un autre acteur très célèbre en Russie s'est désengagé lui aussi. Le scénario a failli remonter jusqu'au traducteur de Poutine, qui aurait peut-être retouché, qui aurait volontiers même retouché certains dialogues du film.
Et c'est là où on voit finalement que quand on prend un scénario qui touche les grandes puissances et qui touche l'histoire, hein, parce que là c'est la grande histoire hein, quand même, et ben voilà, on a le traducteur de Poutine personnel qui commence à s'en mêler, et le pouvoir qui s'en mêle, et puis finalement ça fait tout capoter.
Bah, surtout quand on s'appelle Carion et qu'on s'appelle pas Oliver Stone.
Oui.
Parce que si... Enfin...
Et en tout cas, Kusturica a accepté de faire le film si les Américains n'avaient pas le beau rôle. Donc là, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il y a des défauts un peu partout. C'est pas maniqué hein, pour un sou. Voilà. C'est ce qu'on peut dire sur l'affaire Farwell, donc qui est projeté un peu partout. Y a pas de problème, c'est du français avec du russe sous-titré, quel que soit le cinéma dans lequel vous entrez.
Eh bien, on va enchaîner tout de suite avec les a priori de la semaine. Alors, les a priori de la semaine, pas tout à fait en bonne et due forme, hein, vu que parmi les sorties de ce mercredi, il n'y a pas de film avec le mot blonde dans le titre, ni de film français sur l'adultère. Hein, ils sont tous sortis les semaines passées, partir, les regrets, etc.
Ni t'as, non t'as plus. Longuement pleuré, quoi. C'est ça,
vrai. Le, hein. Ouais. J'ai eu du mal à trouver de la matière. Bon, il n'y a pas non plus de gros blockbuster américain avec Mila Jovovich hein, dans le rôle principal. Bon, donc j'ai été obligé de me rabattre sur des films originaux, intrigants, peut-être même intéressants. Donc un comble quand même. Rien ne va plus, mais bon, on va pas s'arrêter pour si peu. Et puis il y a quand même une comédie avec Eddie Murphy, pardon. Donc tout n'est pas perdu.
Ah, quel bon film. Qui a dit ça?
C'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non.
Oh, quel bon film.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Mais quel charme ce film d'époque, hein? Quel charme.
Et partez pas sans votre dossier de presse.
Alors, eh bien, on va commencer justement avec Eddie Murphy et sa nouvelle comédie qui s'intitule « Dans ses rêves ». Donc un titre qui résume assez bien la réponse que je pourrais donner à quelqu'un qui me demanderait si je vais aller voir ce film. Donc une réaction tout à fait normale, hein, vu que je n'ai plus 10 ans et que je ne voue pas comme certains un culte à l'acteur de Norbit et d'Un vampire à New York, à Brooklyn, pardon, Un vampire à Brooklyn. C'est un prince à New York, je sais plus.
Et le loup-garou de Paris et le loup-garou de Londres aussi.
Oui, non, mais avec Eddie Murphy. Donc voilà, Dans ses rêves raconte l'histoire d'un homme d'affaires incarné par Eddie Murphy qui se consacre un peu trop à son travail au détriment de sa petite fille. Mais quand cette dernière va s'avérer avoir Jérôme Kerviel, Imad Laoud et Bernard Madoff comme amis imaginaires, eh bien notre homme d'affaires va devenir un véritable papa poule et essayer de profiter des bons conseils promulgués par sa fille. Voilà, donc encore une comédie familiale pour Eddie Murphy qui devrait être totalement oublié dans un an ou même dans moins. Alors pour rester dans le registre familial, vous pourrez également aller découvrir à partir d'aujourd'hui l'adaptation sur grand écran des aventures du petit Nicolas, d'après l'œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Donc après Is No Good, après Les Dalton, Astérix et avant Lucky Luke qui sortira le 21 octobre, eh bien l'immense scénariste de BD René Goscinny n'en finit décidément pas d'inspirer les réalisateurs français. Alors formaté pour cartonner dans les salles françaises, le petit Nicolas devrait sans problème remplir son contrat de comédie familiale à nouveau et permettre à Cadmerade de payer les traites de son château à Hawaï. Mais bon, ne soyons pas mauvaise langue quand même, ce sera sans doute mieux qu'Astérix aux Jeux Olympiques, vu que le réalisateur Laurent Tirard a avoué s'être beaucoup inspiré de Jacques Tati et un peu de Wes Anderson pour l'esthétique et pour la mise en scène, et également que Alain Chabat a participé à l'écriture des dialogues, donc on verra ce que ça donnera. Alors on va passer à des choses plus sérieuses, un peu moins kids friendly, comme on dit outre-Atlantique. Ce mercredi va sortir en salle le nouveau film de Park Chan-wook, le réalisateur d'Old Boy et de Sympathie for Mr. Vengeance. Et donc après une courte incursion dans la comédie décalée avec Je suis un cyborg, Park Chan-wook nous revient aujourd'hui avec une histoire de prêtre contaminé par une transfusion sanguine qui le transforme en vampire. Donc baisers sanglants, étreintes mortelles et crises de foi sont donc au programme de ce film qui, d'après les premières images que l'on a pu voir, devrait filer une méchante claque à tous les adorateurs des vampires mormons de Twilight. Donc à noter que ce film a reçu le prix du jury au dernier festival de Cannes et qu'il bénéficie par ailleurs d'une coproduction Universal, soit une unanimité internationale qui est plutôt de bon augure. Et bon, si vous êtes vraiment accro au fantastique, vous pourrez également vous précipiter dès aujourd'hui dans le premier bon multiplex venu. Alors, je veux bien sûr parler du méga CGR de Latt, pour découvrir le nouveau film de Christian Alvar, hein, le réalisateur allemand qui avait fait parler de lui lors de la sortie de son premier film, Antibodies, qui était sorti en 2006, que certains d'entre vous ont peut-être vu et apprécié. Alors son nouveau film s'intitule Pandorum, reprend la formule gagnante du Event Horizon de Paul William Scott Anderson, à savoir celle du film d'horreur spatial. Alors vous allez me dire bien sûr, ce serait pas plutôt la formule gagnante d'Alien, hein, le film d'horreur spatial, et vous aurez parfaitement raison. Mais bon, on va peut-être éviter de comparer une petite série B d'horreur sympathique avec un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma de science-fiction. Donc Pandorum va nous raconter l'histoire de deux astronautes qui se réveillent au fin fond de l'espace après un long sommeil cryogénique et qui n'ont plus aucun souvenir de leur identité ni de leur mission. Donc après avoir erré quelques temps, ils vont rapidement se rendre compte que ce ne sont pas de gentils Ewoks qui ont attaqué le vaisseau, mais de grosses méchantes bébêtes. Voilà, vous êtes prévenus et surtout n'oubliez pas qu'au CGR, personne ne vous entendra crier. Et oui, c'est trop loin du centre-ville, oui. Bon, on finit ce petit tour d'horizon des sorties de la semaine avec trois films aussi dissemblables que peuvent l'être trois films sortis le même jour de la même année. Le premier qui va m'intéresser s'intitule The Cove, la baie de la honte, et il s'agit d'un documentaire. Alors, c'est assez loin de la nouvelle vague de docu écolo à belles images vues du ciel. Hein. La baie de la honte s'apparente plutôt à un reportage guérilla au cours duquel nous allons suivre une bande d'activistes amoureux de Flipper le dauphin qui veulent révéler au monde le massacre de milliers de ces cétacés auxquels se livrent chaque année certains pêcheurs japonais de la baie de Taiji. Donc un film qui devrait nous changer un peu de ces docus moralisateurs en vogue actuellement et devrait vous dégoûter définitivement d'aller dans certains parcs d'attractions thématiques où des dauphins sautent à travers des cerceaux, etc. Ensuite, pour ceux qui ont adoré le dernier film des frères Coen et ses comédiens en roue libre qui s'amusaient à peu près autant à l'écran que les spectateurs s'ennuyaient dans la salle, pour tous ceux qui ne retiendront du dernier film de Quentin Tarantino que le cabotinage navrant de Brad Pitt et son accent forcé qui donnait envie d'être sourd dès qu'il apparaissait à l'écran, si. Pour tous ceux enfin qui ont kiffé la trilogie des Oceans, mais surtout le 12, vous allez vous régaler avec la nouvelle comédie de Steven Soderbergh, The Informant, dans laquelle Matt Damon s'en donne à cœur joie dans le registre crétinisme bas du front et blagues puériles qui ne font rire qu'Eddie Murphy. Donc précipitez-vous donc découvrir cette merveille en attendant The Man Who Stared at Goats, le prochain film dans lequel George Clooney jouera lui aussi à nouveau un personnage de crétin. Voilà, et pour finir, je vous ai gardé ce qui devrait s'avérer comme le meilleur film d'animation qui sortira aujourd'hui. En même temps, c'est le seul film d'animation qui sort aujourd'hui. Donc, j'ai nommé Marie et Max, un film australien réalisé par Adam Elliott. Donc, si le scénario en soi n'est déjà pas banal, à savoir le récit d'une relation épistolaire entre une petite fille australienne de 8 ans et un quarantenaire new-yorkais mal dans sa peau, eh bien, le choix de réaliser ce film en clay motion, donc soit en animation volume à base de plasticine, comme les films des studios Hardman, Wallace et Gromit, eh bien ce choix devrait faire de Marie et Max une petite perle à ne pas rater. Voilà, donc profitez bien des sorties de cette semaine et surtout, n'allez pas voir n'importe quoi.
Eh bien merci Martin pour ces a priori, et puis maintenant eh bien on passe à Hotel Woodstock de Ang Lee.
Alors le moins que l'on puisse dire eh bien d'Ang Lee, c'est qu'à l'instar de grands du cinéma comme Hitchcock ou Kubrick, ce réalisateur d'origine taïwanaise implanté aux États-Unis depuis ses 24 ans brille par son éclectisme. Wuxapian, western, film d'époque, film de super-héros, drame social, comédie sont autant de genres que le réalisateur se plaît à rencontrer, dépoussiérer et illustrer avant de se consacrer à un nouveau projet. Alors Hotel Woodstock est le 11e film du réalisateur depuis le début de sa carrière de cinéaste qui l'engage en 1992 après des études de théâtre effectuées à Taïwan puis de cinéma à New York. Son premier projet majeur est une trilogie basée sur l'étude de la société chinoise intitulée Father Knows Best, qu'il met 2 ans à boucler. Ses coups d'essai s'avèrent d'emblée remarquables et la reconnaissance internationale pointe son nez dès la réalisation du 2e opus de la trilogie Garçon d'honneur, couronné de l'Ours d'or au Festival de Berlin. En 1995, Ang Lee change de sujet d'étude et délocalise le cadre de ses films dans les sociétés occidentales avec l'adaptation du roman éponyme de Jane Austen, Raison et Sentiment, avec devant la caméra Hugh Grant, Kate Winslet et Emma Thompson. Ce film d'époque, très esthétisé, remporte un franc succès critique et commercial et Ang Lee réalise 2 ans plus tard Ice Storm avec Sigourney Weaver, film satirique sur l'Amérique du Watergate qu'il traite par le prisme de la cellule familiale. Il réalise ensuite le film qui va le faire connaître du grand public, donc le Wuxapian Tigre et Dragon, avec ses combats acrobatiques défiant les lois de la pesanteur. Par sa formation et sa culture à la fois américaine et asiatique, Ang Lee parvient à tirer son épingle du jeu lors du traitement de sujets américains, et en 2001, son western consacré à la guerre de sécession chevauché avec le diable, avec Tobey Maguire, est une nouvelle réussite. Si Ang Lee frise la catastrophe en réalisant l'adaptation du comics Hulk, son film suivant, Le secret de Brokeback Mountain, racontant l'amour impossible entre deux cow-boys du Middle West, avec feu Heath Ledger et Jack Gyllenhaal, séduit à la fois critique et public et place désormais le réalisateur dans la sphère des réalisateurs donc prisés et attendus du public. Avec Lust Caution, sorti en 2007, Ang Lee revient avec cette fresque historique teintée d'érotisme et d'espionnage à la culture asiatique. Il obtiendra son deuxième Lion d'or du Festival de Venise après celui empoché par Le secret de Brokeback Mountain. Donc avec Hotel Woodstock, Ang Lee s'essaie un genre qu'il n'avait jusque-là pas abordé, donc celui de la comédie. Et l'originalité ne s'arrête pas là, puisque plutôt que de réitérer la prestation de Michael Wadley au moment de s'intéresser au festival de Woodstock et d'effectuer un bis de son documentaire sur le concert, le film consiste en fait en une sorte de reconstitution de l'événement et de l'ambiance qui y régna. Donc le film démarre par la présentation du petit village de Bethel, perdu dans la campagne rurale de l'État de New York pendant l'année 1969. Parmi la population de Pecknot locaux se trouvent Monsieur et Madame Teichberg, couple à la sauce bidochon tenant un motel à la périphérie du village. Le peu d'attrait que suscite le coin les a placés dans une situation plutôt inconfortable et ils ne parviennent à rembourser l'emprunt contracté auprès de la banque. Par chance, Elliot, leur jeune adulte de fils, est un type bien, qui décide de mettre en suspens sa carrière de peintre entamée à Manhattan pour revenir à la maison, les sortir du pétrin. Président de la chambre de commerce locale, il entreprend de réaliser, comme chaque année, l'organisation d'un petit festival de musique et de théâtre sans envergure, afin de doper l'activité touristique de la contrée. Lorsque la localité voisine Walkill annonce son refus d'accueillir le projet de festival musical d'un certain Mike Long, destiné à plusieurs milliers de hippies, Elliot saute sur l'occasion et prend contact avec l'organisateur pour délocaliser la manifestation à Bethel. C'est donc, vous l'aurez compris, par le vecteur d'Elliot que le spectateur va suivre l'organisation complètement improvisée et accélérée du festival. Alors présenté ainsi, l'implantation et le déroulement du récit comportaient, on le pense bien, un risque certain de lourdeur et d'ennui. Ang Lee parvient pourtant, par l'usage de procédés visuels et narratifs, à raccourcir le temps de présentation de l'organisation. L'usage du split screen s'avère ainsi payant, permettant d'économiser par la superposition de plans un précieux temps, tout en ne dénaturant pas l'ampleur de la tâche que fut la mise en chantier joyeusement bordélique de l'événement. De la même manière, l'usage d'humour et de dérision, tant dans la présentation des différents personnages que dans le traitement des situations, rend parfaitement digeste le suivi du récit. Le traitement du personnage de la mère d'Eliot, véritable mégère autoritaire, grippe-sous et gueularde, est à ce propos donc assez éloquent. Passé les premiers instants du film, on se retrouve donc peu à peu plongé dans l'ambiance cool de cette gigantesque réunion hippie et on va vivre en compagnie d'Eliot cette expérience enrichissante et émancipatrice qui fut pour beaucoup le point culminant de la contre-culture des années 1960. Rencontre de personnages au caractère trempé, émancipation sexuelle, prise de stupéfiants dans un vieux van Volkswagen vont ainsi s'enchaîner pour Elliot, le menant d'expérience en expérience. Expérience, on le comprend bien, qui dépasse celle de l'individu pour incarner la réalité et la réalité du désir d'émancipation de la jeunesse américaine pendant les années 70, en rupture donc avec la génération précédente, marquée et rendue plus austère par la guerre. Bien évidemment, le travail fait sur la reconstitution de l'organisation est conséquent et le film va ainsi comporter toutes les étapes de l'élaboration du festival. Seront ainsi tour à tour évoqués le bras de fer entre le fermier Yasgur Max et les jeunes investisseurs new-yorkais John Roberts et Joel Rosenman à propos du prix de la location des 243 hectares du terrain, le dérapage de la conférence de presse qui annonça la gratuité des 32 concerts et par là le véritable pèlerinage de centaines de milliers de personnes jusqu'à Bethel, tout comme donc la pluie complètement imprévue qui transforma en 3 jours les riches prairies ondoyantes en champs de bataille apocalyptiques et boueux. À noter que le bouchon routier qui découla de l'événement fut le plus gros que connut l'histoire des États-Unis, tandis que fut peu après déclarée sinistrée la zone par les autorités. Hotel Woodstock est donc un film frais qui se suit très bien. La retranscription de cet événement est correctement faite et du coup son ampleur parfaitement perceptible par le spectateur. Mieux, le film donne à respirer ce parfum d'humanité dans ce qu'elle a de bon, de fraternel, d'enclin au partage et à la tolérance. Voilà, donc Hotel Woodstock, c'est un film que je vous recommande, forcément. Il dure 2 heures, on ne les voit pas passer. Moi, bon, j'étais trop jeune pour suivre, même par la télévision, je n'ai pas vu d'ailleurs non plus le documentaire, donc cet événement de Woodstock. Je trouve par contre que sont vraiment perceptibles par le travail fait par Ang Lee, justement l'ambiance qui devait régner là-bas, cette forte émancipation contagieuse qui sévissait certainement. Voilà, c'est vraiment sympa.
Eh bien, c'est à voir dans, au Diagonal Capitole hein, pour la VO sous-titrée. On passe à un film français. La sortie est aujourd'hui. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Je suis heureux que ma mère soit vivante. Film de Claude Miller et Nathan Miller. Nathan Miller étant le fils de Claude Miller. Claude Miller étant le réalisateur de La meilleure façon de marcher, mais aussi de La petite voleuse et de L'effronté, je crois. J'espère. Enfin bon, voilà, si j'ai dit une connerie, on coupera au montage. En tout cas, c'est un grand réalisateur, La classe de neige aussi, Claude Miller. Donc, parler du film, ça se fait en très peu de temps. Donc, c'est entre 7 et 20 ans, Thomas a recherché Julie, sa mère biologique. Et à l'insu de ses parents adoptifs, il va retrouver cette femme qu'il a abandonnée à l'âge de 4-5 ans et commencer auprès d'elle une double vie. Une double vie avec des guillemets, parce que c'est là que se joue tout ce film. C'est la relation... Eh bien, qu'il va avoir avec sa mère biologique, une relation pas forcément facile. En tout cas, ce film repose évidemment sur une mise en scène qui est absolument bien maîtrisée par deux réalisateurs, enfin le père, le fils, qui savent diriger des acteurs non seulement, mais aussi utiliser une caméra, sachant que Nathan Miller a toujours été, enfin a souvent été dernièrement l'assistant de son père. Donc voilà, deux personnes qui maîtrisent complètement la caméra. On va écouter en revanche ce qu'il en est des acteurs qui sont absolument pas connus, enfin à moins que vous connaissiez Vincent Rottier et Sophie Catani.
Du tout.
Voilà, du tout. Et donc ça c'est pratique parce que on peut les regarder sans penser à tiens bah oui enfin c'était l'exemple de Darroussin tout à l'heure.
Darroussin.
Ah tiens voilà Darroussin, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui. Et bien voilà, on écoute ce que dit Claude et Nathan Miller de ces actrices.
On fait lire le scénario aux acteurs et puis je leur fais un interview où ils ne savent pas les questions que je vais poser. Ils doivent me répondre comme s'ils étaient le personnage. Vous voyez ? D'accord. Donc c'est de l'impro pour eux. Mais ça montre leur compréhension du personnage. Ça me donne beaucoup de renseignements. Et le producteur, quand il a vu ça, ce truc, il sera sûrement dans le bonus du DVD parce que c'est vachement... Ça mais fait un film.
C'est l'équivalent de la séquence de signature.
Oui, avec l'assistante. Quand elle abandonne le gosse. Enfin, il n'a pas dit elle est formidable. Il a cru que c'était une vraie mère.
C'était de la doc,
Que c'était de la doc. Et quand on lui a dit non, c'est l'actrice qu'on veut, c'était très encourageant pour nous, quoi.
Alors on l'a entendu, hein, on parle déjà d'assistante sociale, il y a la DAS qui s'en mêle, il y a même la justice au bout d'un moment, c'est un film bien ancré socialement, avec deux familles complètement différentes, hein, sa famille adoptive et puis sa famille, enfin sa mère biologique qui ne vivent pas du tout dans le même lieu. C'est tout d'un film français hein, présenté comme ça. En tout cas, enfin c'est très très bien rythmé. Alors il y a deux moments dans la fiction. Il y a le moment que l'on vit avec la mère biologique, donc qu'il a enfin retrouvé. Et puis il y a sans cesse des flashbacks où on revient dans son enfance et voir les souvenirs qu'il avait finalement de cette mère, parce qu'il avait des souvenirs hein, vu qu'elle les a quittés à 4-5 ans parce qu'il avait aussi un petit frère. Donc tous ces souvenirs sont montrés avec des plans fixes et une lumière un peu chaude. Donc c'est pratique parce que ça permet aux spectateurs de bien comprendre dans quel moment on est. Sinon, on va continuer à écouter Claude Miller qui parle. Alors la question qui avait été posée par un journaliste lors de cette conférence de presse, c'était est-ce qu'il y avait eu des frictions, des désaccords entre le père et les fils pendant le tournage ?
Sinon les frottages, non. D'abord, il fallait pas, même s'il y en avait eu, il fallait pas que l'équipe et les acteurs le sentent. Surtout pas. Il y en a eu aucun, en fait. C'est pas marrant, hein, mais c'est comme ça.
Voilà, c'est pas marrant, mais pourtant on l'a noté ici. Sinon, moi je vous recommande ce film. Je suis heureux que ma mère soit vivante pour le style, pour ce que ça raconte. Ça, c'est le point de départ d'ailleurs de cette histoire, ça, les faits sont vrais. Hein, c'est pas comme l'affaire Farewell. Là, il n'y a quasiment pas eu de romance. Et c'était Emmanuel Carrère, donc c'est lui qui avait déjà fait. Le scénario de L'Adversaire de Nicole Garcia hein, sur cette histoire avec Jean-Claude Roman enfin qui se faisait passer pour un médecin de l'OMS qui a tué femme, enfant, père et mère et chien. Donc Carrère qui est habitué à trouver bien les petits faits divers qui malgré tout sont intéressants parce que on peut pas cracher sur tous les faits divers et le cinéma s'en nourrit énormément. Donc là, c'est une très très belle histoire avec beaucoup beaucoup d'ambiguïté Et ça, je pense que c'est très très bien amené par la réalisation. On termine avec Claude Miller qui nous parle bien de la vision de ses films. Il lui arrive de regarder des films longtemps après. Et c'est ceux qu'il aime, ce n'est pas forcément ceux qui ont eu le succès des spectateurs.
Mais c'est très très bizarre parce que tout le monde me fait beaucoup de compliments sur La meilleure façon de marcher. Et je l'ai revu l'année dernière. C'est un film qui m'a agacé. Enfin, je le trouve réussi dans le détail, mais il y avait quelque chose qui m'a agacé dedans. Et j'ai revu un film que tout le monde a dégueulé dessus, qui s'appelait L'accompagnatrice.
Oui, ça t'a plu.
Et j'ai trouvé ça vachement bien. C'est vraiment, on n'est pas intéressant, nous, en tant que juge de nos propres trucs.
Mais vous avez un préféré quand même dans votre film ?
Moi, j'ai des préférés, oui. Mais c'est le moins connu, c'est le film que j'ai fait pour Arte, qui s'appelait La Chambre des Magiciennes. Ouais, j'adore ce film. Je suis très fier d'avoir fait ce film. Il m'amuse beaucoup.
Voilà, c'est un film, celui dont il est très fier, qui est sorti très confidentiellement dans les salles, mais qui a été en revanche diffusé sur Arte. Moi, concernant les films de Miller, c'est vraiment la meilleure façon de marcher que j'adore. Cinérama s'achève tout doucement. On va parler des événements. On va terminer comme ça.
Très rapidement. Ce soir, fin d'après-midi, 18h15, vous avez une séance unique du film Les Dormants de Pierre-Yves Van de Vierde. Une séance suivie d'un débat avec le réalisateur, c'est au Diagonale à 18h15. Et jeudi, donc demain à 17h50, vous avez une projection de Hiroshima Mon Amour de Alain René, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Une séance qui est précédée d'une performance théâtrale, j'imagine, proposée par Julien Bouffier et Dimoné. Julien Bouffier qui travaille au 13 vents.
Metteur en sœur, ce que c'est ça. Voilà. Metteur en scène, oui.
Donc Hiroshima Mon Amour, c'est demain, c'est également au Diagonale à 17h50 et pour les autres événements de la semaine. je n'ai rien préparé.
C'est déjà pas mal. Ça se suit. Je pense qu'on n'a pas autre chose à rajouter. On a beaucoup parlé. Il y a eu moins de son que d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine à 13h30 jusqu'à 14h30. Et voilà, ce sera toujours sur Divergence FM.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.
J'ai beau faire 2 séances de psychothérapie. Vous savez, je vais 2 fois par semaine chez mon psychothérapeute. Eh bien, ça ne change pas.
Enfin, écoutez-moi, si je peux me permettre, ce qui change, c'est que lui, il roule en Porsche.
Oui. Mais moi, si je vais pas le voir, je suis complètement paumée.
Écoutez, paumée pour paumée,
Vous pouvez pas dire ça, moi je suis en train de vous...
Non mais vous, écoutez, tout le monde a des emmerdes, non ?
Cinérama.
Ça fait 20 minutes que je vous entends jeune dans mon taxi, là, ça va ?
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.